BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, donc Stéphane Rosès, président de CAP, enseignant Sciences Po HEC. Stéphane, il y a beaucoup de questions à voir avec vous. Évidemment, on va parler de ce bras de fer qui s'ouvre à l'Assemblée nationale sur la retraite, avec sur le fond de ces 22 000 amendements. Bon, c'est l'obstruction classique, j'ai envie de dire, de la politique politicienne. Mais il y a le fond aussi qui est important. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en discutant avec quelques grands patrons, petits patrons, organisations patronales, justement, il y a une sorte d'inquiétude quand même par rapport à Emmanuel Macron, en disant, mais finalement, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu la main? Il vient de passer une semaine assez noire sur le plan politique. Et que, qu'est-ce qui va se passer pour les réformes? Qu'est-ce qu'il va faire d'ici l'élection présidentielle de 2022? Est-ce qu'il va tout arrêter? Et est-ce qu'il n'y a pas un doute, une inquiétude sur la réélection potentielle d'Emmanuel Macron? L'effet Giscard, comme on dit.
Oui, toutes ces questions existent et le fait que... chez les téléspectateurs de BFM Business ou dans les milieux de l'entreprise, on commence effectivement à entendre ce genre d'inquiétude et révélatrice d'un état du pays, car au fond, beaucoup pourraient dire, et c'est ce que disent les partisans d'Emmanuel Macron, que au fond, il avance dans les réformes. Mais beaucoup peuvent constater que le prix en est quand même un état du pays qui est un état de grande tension, de grande violence. Dans les entreprises, ce n'est pas sans effet sur le moral des salariés. Et alors que les indicateurs objectifs, beaucoup d'indicateurs objectifs sont positifs, il y a une dépression, au fond, dans le corps national et qui s'exprime également dans la vie des entreprises ou dans le climat au quotidien. Il y a un climat malsain. Il y a un climat de critique à l'égard des élites, et là-dedans, on met un peu tout le monde. On met les chefs d'entreprise, on met les financiers, on met les journalistes, on met les hommes
politiques. Alors que les résultats, vous avez raison, on le voit sur l'apprentissage, même s'il y a une polémique, on le voit aussi sur le chômage, on le voit. Et ce matin encore même, François Asselin, le patron de la CPME, qui disait, ben non, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Mais, voilà.
Voilà.
Alors, oui, d'Emmanuel Macron.
Oui, alors justement, d'abord, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que lorsque l'on parle de la dépression du pays, elle ne date pas d'aujourd'hui, mais on peut considérer que le président l'a d'un certain point de vue réactivé, puisqu'il avait été élu pour résoudre la crise morale du pays en le mettant en avant, et qu'on a le sentiment depuis le printemps 2018 qu'à nouveau le pays retourne dans ses travers. Et donc, du coup, derrière, la question, c'est quelle est la nature de cette dépression, car les indicateurs économiques vont plutôt mieux, c'est que sans doute le pays se sent bousculé par plus des façons d'être et des façons de faire la réforme que par des éléments objectifs d'amélioration de la situation. Et clairement, comme Emmanuel Macron s'est fait dire autour de l'idée qu'il instaurait un rapport direct aux Français, quand ce rapport est ébranlé, déstabilisé, déstructuré, alors le pays semble aller dans tous les sens, et même la fonction symbolique du président de la République ne le met plus à l'abri, y compris d'agressions dans la rue, dans l'espace public, et forcément, ça inquiète ceux qui portent de l'autorité, car les chefs d'entreprise, contrairement aux politiques, maintenant, c'est eux qui demandent de la visibilité sur le moyen long terme, alors que les politiques semblaient être rivés, eux, sur des éléments de court terme, de réélection.
Il y a les élections municipales en plus qui arrivent. Juste pour clore sur ce débat-là, il y a aussi de savoir qu'est-ce que va faire le président ces deux prochaines années.
Oui, effectivement. Voilà. Alors,
c'est un peu toute la question. J'ai abordé ça aussi avec Stéphane Séjourné. Vous connaissez bien son ancien conseiller politique, enfin qui revient un petit peu aussi par la fenêtre.
Oui, justement, c'est l'interrogation, car derrière, on sent que les chefs d'entreprise et ceux qui sont favorables à la réforme dans le pays veulent à la fois que le pays améliore ses fondamentaux du point de vue de la compétitivité, de la dette, et en même temps, ils s'inquiètent sur le fait de savoir à quel prix, car les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité, d'un minimum de stabilité. Or, le paradoxe, pourrait s'interroger les opposants à Emmanuel Macron, c'est que alors que le pays se délite, il n'y a toujours pas, hormis Marine Le Pen à la présidentielle, d'alternative raisonnable qui semble se construire pour apaiser les passions, pour faire que les gens attendent ou qu'il y ait des débats sur le fond.
Est-ce qu'on peut dire, toute dernière question politique, mais est-ce qu'on peut dire, Stéphane Rosès, que Emmanuel Macron, il a quand même vraiment basculé du côté du centre-droit ? Pour pas dire à droite, c'est un peu excessif. Mais
pour reprendre les terminologies de René Raymond, je dirais il est passé d'un néo-bonapartisme ou d'un bonapartisme alors néolibéral à la droite orléaniste. Hein. Il est passé de Bonaparte à Guizot et par moments, pour certains Français, il ressemble un peu à Thiers même. Hein, par
la pas physiquement.
Non, pas physiquement, mais en tout cas lors des mouvements sociaux. Donc effectivement, il y a eu un basculement dans le rapport d'Emmanuel Macron effectivement au pays.
Ouais. Alors maintenant, cette réforme des retraites, avec cette bataille, ce bras de fer qui arrive, donc ça y est, la loi est passée, est en commission avant la discussion à l'Assemblée nationale. Comment vous voyez les choses? Comment vous décryptez ce bras de fer, cette bataille avec ces 22 000 amendements et puis quand même, c'est sûr, beaucoup d'interrogations hein, sur la faisabilité de cette réforme.
Oui, au fond, c'est pas, depuis maintenant quelques semaines, vos émissions et vos confrères commentent avec un certain étonnement la façon dont cette réforme a été pensée, mise en œuvre. Et là, nous arrivons au dernier moment institutionnel légal qui est effectivement la bataille parlementaire. Alors bon, le Parlement, les débats au Parlement en France, hein, ça a jamais été très apaisé, très onctueux, ça a jamais été la Sainte Famille, mais là, clairement, c'est une bataille d'obstruction de la part de l'opposition qui peut se réfugier à bon droit sur le fait que le débat a été conçu comme étant court dans le temps. Bref, cette réforme des retraites aura eu une très longue période de concertation sociale, mais qui en fait n'en était pas une, puisqu'elle arrivait, la CFDT elle-même ne s'y retrouvait pas. Un très long mouvement social, avec des moments de tension et de dureté, qui va continuer de façon sporadique. Et puis un débat parlementaire qui n'a pas été conçu pour en être un. Donc la France Insoumise, notamment, mène une bataille d'obstruction, parce que en fait, je crois qu'elle attend le 49-3 pour faire la démonstration que, décidément, il n'y aurait pas de démocratie,
de débat démocratie
dans le pays. Et l'exécutif est un peu ennuyé, il ne veut pas non plus rentrer dans le piège, il veut néanmoins avancer.
Est-ce que ça serait, parce que dès lors qu'on dit ordonnance, on dit souvent 49-3, donc est-ce que sur une partie du texte, ça pourrait être le 49-3 ?
Alors, les choses ne sont pas tranchées. Hein. Le MoDem est plutôt favorable.
Enfin, oui, c'est pas ce qu'il dirait sur le président du groupe.
Aussi parce que le 49-3 permet aussi de solidifier une majorité quand il y a du vague à l'âme. On a vu, il y a une douzaine de députés de La République En Marche qui ont quitté. Au sein du MoDem, dans les troupes, il y a des interrogations. Donc, effectivement, c'est pas tranché, mais il pourrait y avoir recours au 49-3, ne serait-ce que pouvoir accélérer et éclure cette bataille qui n'est pas une bataille sur le fond.
Qui n'est pas une bataille sur le fond, même si le fond, il est là, et même, sauf que justement, on n'arrive pas tellement à le cerner, le fond. C'est un peu toute la difficulté d'avoir parallèlement cette conférence de financement et puis parallèlement cette discussion à l'Assemblée nationale sur le texte.
C'est baroque.
C'est baroque, comme vous dites. En fait, tiens, je vais retenir le terme, Stéphane. Oui. C'est baroque, oui, le moins qu'on puisse dire. Le fait que la discussion ait lieu pendant les élections municipales, est-ce que ça veut dire que, puisque ça, on l'a laissé faire, il a fait vraiment une croix, le gouvernement et Emmanuel Macron ont fait vraiment une croix sur les municipales?
Alors, il y a les deux lectures.
Ils ont raison.
Il y a les deux lectures. Il peut aussi y avoir l'autre lecture qui est de dire la Macronie a compris que ces municipales seraient très décevantes et là où elle ne le serait pas, ça dépendrait du fait de solidifier ce que vous appeliez tout à l'heure le centre-droit. Hein, c'est-à-dire que là où ils pourront afficher qu'ils auront soutenu des maires, ou qu'ils auront eu des candidats à La République En Marche, c'était en s'indexant sur un électorat de centre-droit. C'est mésestimé qu'une municipale, surtout celle-là, ne se feront pas tant sur des enjeux nationaux que purement locaux. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs de la part de la majorité dans son appréciation des municipales. On l'a vu dans un certain nombre de désignations, dont Paris évidemment. Mais c'est une mécompréhension de ce que la logique des municipales, elle est purement locale. Et il nous avait annoncé une réforme des retraites après les municipales, ça arrive avant les municipales, comme s'il fallait faire la démonstration à cet électorat de centre-droit plutôt âgé, veillant au déficit, au fait que la France fasse des réformes structurelles, de lui envoyer des messages pour qu'elle se mobilise en soutien de la majorité actuelle.
Ce qu'on appelle, un petit peu comme ça, non, ça commence à se susurrer, mais le fait qu'on pourrait avoir un effet Giscard, c'est-à-dire avoir un jeune président qui a pris un peu le pouvoir à la hussarde, qui a réformé le pays, ce qu'avait fait évidemment Valéry Giscard d'Estaing, mais qui a réussi à accumuler sur lui, je dirais, un tout petit peu toutes les frustrations, on va pas aller plus loin, du pays. Alors, est-ce que pour vous, il y a une comparaison possible ou elle est absurde?
Non, elle n'est pas absurde. Alors, les deux périodes sont très différentes. En l'élection de Giscard, la France pensait que demain serait meilleur. Et donc, il y avait encore des aspirations, des rêves d'alternance, d'alternative, ce qui fait que la gauche était tapie et que Giscard a permis la perpétuation de la droite et d'empêcher l'arrivée de la gauche qui arrivera plus tard. Les points en commun que vous faites sont de deux types. Le premier, c'est que Giscard, entre le début de son quinquennat, de son septennat, pardon, et la fin de son septennat, a quand même opéré un petit tête-à-queue. Alors, il faut dire, la crise était arrivée, il était parti sur le sociétal, et puis il a fallu gérer le chômage devenu en 81 la première préoccupation des Français. Et deuxièmement, le style. Giscard ne se comportait pas tant comme un monarque républicain que comme un aristocrate. C'est très différent. C'est-à-dire qu'il semblait avoir un rapport un peu dédaigneux avec les Français et en même temps paternaliste. Alors que le monarque, lui, il est dans la compréhension du peuple. Il est dans un rapport que pouvait avoir, par exemple, De Gaulle ou Mitterrand.
Oui, mais enfin là, Emmanuel Macron n'est pas dans la compréhension du peuple.
Alors voilà, justement, c'est le deuxième point en commun, c'est que c'est la différence de posture, c'est que dans c'est-à-dire que Emmanuel Macron semble décidément, dans ses façons d'être et de faire, peiner à recoller avec le pays. Il l'avait fait un peu avec le grand débat, avec les gilets jaunes, il s'était remis sous la coupe du pays, et là, il a perdu la main dans le rapport intime et charnel avec les Français.
Merci beaucoup Stéphane Rosès. On aura évidemment l'occasion de se retrouver sur toutes ces questions. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes prof à Sciences Po, HEC et président de CAP. Dans un instant, on ne va pas partir en Chine. Heureusement, on va rester surtout ici dans les studios de BFM Business. Mais on va parler du coronavirus avec Jean-François Demiglio, qui est le président de l'Asia Center. Quelles sont les conséquences économiques pour la Chine, bien sûr, avec la Chine qui est à l'arrêt, mais aussi pour les entreprises mondiales. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Jean-François Demiglio, qui est président d'Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes un des plus fins connaisseurs de la Chine. Et là, c'est sûr qu'on se pose quand même pas mal de questions avec ce coronavirus, dont on a appris, du reste, une évolution un peu inquiétante. D'abord, il y a ce bateau japonais avec 3700 passagers confinés à bord. Il y a la première contamination d'humain à humain, c'est un point important. Et puis, il y a premier test positif à Bruxelles, donc sur le territoire européen. D'abord, quelle analyse vous faites de ce qui se passe sur le coronavirus? Vous n'êtes pas l'Institut Pasteur.
Exactement. Voilà. Oui. Il faut être très prudent quand on n'est pas effectivement virologiste ou immunologiste. On est dans un schéma d'épidémie. On peut déjà comparer à ce qu'on a connu avec le SARS. On sait bien qu'on n'est pas au pic. On sait bien qu'il y a des statistiques qui nous indiquent très précisément l'Institut américain de Johns Hopkins qui nous permettent de suivre l'évolution. Il faut quand même se rappeler que 98% des cas sont dans cette ville qui est confinée maintenant depuis plus d'une semaine, hein, qui est Wuhan. C'est 98% des cas. Il y a deux autres foyers de confinement désormais. Wenzhou, qui est assez bien connu en France, puisque une grosse communauté qui vient de Wenzhou, qui est En fait, le business privé, les PME chinoises qui sont exportées, qui est aussi maintenant confiné, et puis Huanggang, une troisième ville qui est confinée. Simplement, il y a eu des mesures drastiques. Ces mesures drastiques, il semblerait qu'elles stoppent la dissémination en dehors de ces centres, même si effectivement,
du
comme vous l'avez dit...
Du côté de Shanghai et de Hong Kong, il y a des doutes. Hein.
Oui, mais enfin, les pourcentages montrent une concentration très forte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, même si c'était tardif, les mesures de confinement, les mesures de quarantaine, et puis les mesures de surveillance qui existent en Chine, d'une certaine façon... ont une efficacité.
Oui, mais en même temps, très tardive. Hein, c'est là où quand même le pouvoir politique peut être mis sur la sellette, parce qu'il y a eu le fameux Dr Li qui a été le premier à repérer sur le marché de Wuhan en disant il se passe quelque chose de bizarre.
Fin décembre.
Il a été emprisonné. Je crois qu'il est toujours par la chair. Et puis, il y a eu le maire qui a autorisé ce tout petit banquet de mariage de 40 000 personnes alors que ça commençait. Donc, est-ce que ça ne veut pas se retourner contre le pouvoir politique?
Il y a un énorme enjeu. Oui. Il y a un énorme enjeu et c'est dichotomique. Soit, effectivement, on atteint le pic très vite et on commence à voir la baisse et triomphe extraordinaire de plusieurs personnes ou de plusieurs éléments. Bien sûr, le président de la République, Xi Jinping, qui va dire, vous voyez, on était dans des situations beaucoup plus graves que le SARS. On a réussi. Donc ça, c'est un enjeu possible. Si effectivement, on a une dérive avec les mutations qui ne sont pas gérées, bien sûr, une déstabilisation et puis un élément économique, c'est-à-dire que si effectivement on a des PME chinoises qui commencent à fermer, si on a effectivement une croissance qui est de moins en moins partagée parce que il y a des gros perdants et puis il y a des perdants qui arrivent à survivre, là vous avez l'une des légitimités, l'un des éléments de légitimité du régime qui est mis en cause, c'est-à-dire l'enrichissement. Ce qui est en jeu, en fait, dans la légitimité de Xi Jinping, c'est je vous enrichis, je vous surveille, mais je vous laisse aussi des poches de liberté. Ces poches de liberté, c'est manger n'importe quoi.
Ouais.
C'est effectivement avoir des banquets, comme vous le dites. Si on compare une société comme Singapour, qui est une société autoritaire, on va dire, la société autoritaire ne permet pas ces poches, je dirais, de respiration.
Mais bien sûr, mais c'est-à-dire qu'un banquet à Singapour, pardonnez-moi, mais...
Il n'y a pas lieu comme ça.
Mais pour cause, je veux dire, il est quoi, avec 10 personnes, c'est déjà énorme à Singapour, alors que 40 000 personnes, c'est rien à l'échelle de la Chine. Vous voyez, c'est difficilement comparable.
Non, mais ce que je veux dire, c'est le fond, c'est la méthode. À Singapour, très tôt, on vous dit, vous n'avez pas le droit de cracher par terre, parce que cracher par terre, c'est pas hygiénique. En Chine, on vous le dit, mais c'est très récent. Qu'on contraigne ça. Et on ne vous dit pas, vous n'avez pas le droit de manger du pangolin.
Ouais. Alors maintenant, quelles conséquences vous voyez? Donc, on a vu les cours du pétrole, là, je crois que c'est moins 20% depuis début de l'année, conséquences sur les résultats de BP, réunion de l'OPEP. Donc, on voit tout de suite, parce que je crois que c'est 35% hein, de la consommation mondiale de pétrole, hein, de mémoire, la Chine.
Absolument, ouais. Oui.
Donc, c'est dire si c'est un enjeu très important. Et puis, tous nos petits téléphones, smartphones, engins divers et variés, voitures. On dépend tous de la Chine. On est en train d'en prendre conscience, non?
Oui. Alors, c'est 400 millions de tonnes, un peu plus de 400 millions de tonnes de pétrole, la Chine, effectivement. Il y a des impacts à terme différés. C'est-à-dire que quand vous regardez les bourses, quand vous regardez le cours de BP, quand vous regardez le cours du pétrole, si vous voulez, c'est comme si on avait des capteurs sur l'économie globale. Et tout de suite, ces capteurs vont vous dire, ça va mal. Cela dit, c'est des capteurs à très court terme. Hier, 8% sur la bourse de Shanghai, 400 milliards de dollars qui s'évaporent du jour au lendemain. Mais ça, c'est pas l'économie réelle. L'économie réelle, elle va souffrir, certainement, en fonction de la durée des ruptures d'approvisionnement. L'index baltique, donc le fret, moins 49% depuis le début de l'année. Ça, c'est déjà un indicateur à terme un peu plus lent, si vous voulez, parce que ça veut dire que les bateaux ne vont plus partir, ou en tout cas que les approvisionnements vont être en rupture. Detroit dépend en partie de l'approvisionnement chinois. Donc effectivement, si on dit que le PIB chinois baisse de 1,5%, il y a une étude américaine qui nous dit aujourd'hui qu'on pourrait être en dessous de 5% sur l'année 2020, ça veut dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'approvisionnements qui ont été en rupture de stock. Il y a deux réponses à ça. Il y a les délocalisations qui ont déjà commencé vers l'Asie du Sud-Est. Et puis, il y a effectivement un ralentissement de l'économie mondiale.
Oui, mais on va prendre combien de temps pour prendre la mesure de ce ralentissement, des conséquences? Parce que là, la Chine est à l'arrêt. Donc déjà que la croissance était sous les 6%, là, la Chine, le moteur économique chinois, est à l'arrêt. Il suffit de voir toutes les rues vides de Pékin, de toutes les grandes villes, pour s'en rendre compte.
Oui, alors...
Non,
si vous, il s'agit pas de vous délivrer un message optimiste ou de propagande sur ce qui se passe, mais on est dans l'instant, dans l'observation de ce phénomène. C'est très différent de, par exemple, la guerre commerciale. La guerre commerciale, on arrivait à avoir des tendances. Donc la prédiction, la question que vous posez est forcément beaucoup plus difficile que celle de la guerre commerciale. Mais on n'a pas affaire non plus à des acteurs économiques qui ne planifient pas. Toute entreprise dans le monde a des plans de contingence, des contingency plans, qui nous disent qu'est-ce qui se passe si mon approvisionnement chinois est en rupture de stock. Mmh. Donc, on est en train d'activer ici et là, d'abord, dans les entreprises étrangères en Chine. Je peux vous dire qu'eux, ils ne sont pas fermés. Hein. Ils travaillent parce qu'ils essaient déjà de récupérer leur staff. Ils essaient d'utiliser au maximum leur staff à domicile.
Les Apple, les Mac, ils sont tous fermés. Hein.
Bien sûr, ils sont tous fermés. Mais vous avez aussi beaucoup de services qui dépendent de la Chine. Ceux-là, ils travaillent. Et puis, dans ces contingency plans, vous avez comment est-ce qu'on va reporter les approvisionnements venant de Chine. C'est pas impossible. Vous savez, il y a eu cette histoire il y a 4 ans, stupide, d'approvisionnement de vis italiennes chez PSA. C'était pratiquement 100% des vis qui allaient dans les voitures qui venaient de cette usine. Bon, et quand tu disais plein, ça existe.
C'est-à-dire, c'est le travail. Donc, pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est encore trop court pour avoir de vraies conséquences. C'est ça que c'est votre message.
Il y a plusieurs temps dans l'histoire. Il y a plusieurs temps dans l'histoire. Et effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui dans les contingency plans, c'est qu'est-ce qui se passe si le 1er mars, j'en suis toujours au même point, ou pire. Qu'est-ce qui se passe si le 1er avril, j'en suis toujours au même point, ou pire? Et là, on va commencer à passer des provisions. Et là, effectivement, dans les comptes des sociétés, vous allez avoir un impact. Et puis, effectivement, dans les profits. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en est surtout à faire tourner des plans de contingence, à faire tourner aussi des alternatives.
Ça peut durer combien de temps?
Là, c'est vraiment une question. C'est vraiment une question. Alors, un plan de contingence, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 9 mois. Et puis la question ensuite, elle est à poser à des médecins. Encore une fois, ma lecture est juste pour rappeler que vous avez aujourd'hui autant de guérisons que de morts en Chine. La temporalité n'est pas la même entre les guérisons. Mmh. Et les morts, et même la déclaration, on est bien d'accord. Néanmoins, je dirais, il faut aussi avoir une lecture plus fine et plus sereine des chiffres. C'est un petit peu le message que j'ai...
Jean-François Dimiglio, on va rappeler que vous présidez l'Asia Centre, donc veut dire que vous êtes très pro-asiatique. Enfin, c'est un pays que vous connaissez très bien. L'Asie, une région que vous connaissez très bien. Les conséquences, justement, on essaie de se projeter un petit peu. Oui. Supposer que ça ne soit pas une catastrophe, une épidémie gigantesque. Enfin bon, ça, espérons que non. Mais il y aura peut-être quand même des conséquences ensuite.
Qualitative plus que quantitative. Ouais. Alors qualitative, ça c'est très important. C'est-à-dire que l'autre comparaison que je fais très souvent, c'est l'image négative qu'on avait du Japon dans les années 80, qui est tout à fait comparable à l'image négative qu'on a de la Chine aujourd'hui. C'est clair. Et quand vous me dites que je suis pro-asiatique, encore une fois, je suis pas un turiféraire de la Chine. Quand le Japon a eu des problèmes, qu'il a souffert, il a suscité, je dirais pas de l'empathie, mais une compréhension des problèmes du Japon. Ouais. Il y a deux solutions pour la Chine. Soit elle dit j'ai des problèmes, aidez-moi. Et là, on va un peu mieux humilier la Chine. Soit elle dit, c'est moi qui résous mes problèmes, c'est moi qui me ferme. Et là, ça va être assez mauvais. Le deuxième impact qualitatif, c'est qu'on avait l'habitude de dire l'émergence, c'est un trait qui va tout droit. Et là, on se rappelle que l'émergence, c'est un trait avec des blips, avec des baisses. Et on va se souvenir qu'il y a un risque chinois, autre que risque politique, autre risque économique, qui est un risque difficile à qualifier, qui est l'accident chinois. Il était présent dans les analyses de risque, mais on ne savait pas trop à quel degré l'inclure. Et ça va changer des choses dans les politiques d'investissement, dans les politiques aussi d'affinement de la connaissance de la Chine.
Juste un tout petit point, on peut avoir une occidentalisation plus forte de la société chinoise. Je m'explique, vous avez ces fameux marchés Beaucoup d'entre nous, on a été sur ces marchés. C'est sûr que nous, avec notre vision d'occidental, ça nous fait un petit peu bondir d'horreur.
Oui.
Est-ce que, je ne sais pas, on peut imaginer le fait de cracher par terre, qui est complètement dans la tradition chinoise, donc ça n'a rien à voir avec nous. Mais bon, voilà, là
c'est
aussi.
Pour c'est pour ça que je vous parlais de Singapour. Oui. Vous avez tout à fait raison, les sièges sont différentes, mais la culture singapourienne, au départ, elle n'était pas très différente. Et on a dit, pour le bien commun, ce n'est pas pour vous être désagréable.
Oui.
Il faut, en fait, le message de l'occidentalisation, ce n'est pas l'Occident, c'est bien, l'Asie c'est mal, mais l'Occident a un sens du bien commun. C'est ça qu'il faudrait arriver en Chine.
Merci beaucoup Jean-François Desmiglio. J'espère que vous allez revenir nous voir bientôt, et en même temps ça voudrait dire que ça continue. Donc on verra bien. Merci d'avoir été avec nous, donc le président d'Asiacent. Dans un instant, numéro 2 du MEDEF, Patrick Martin, président délégué de l'organisation patronale, sera avec nous. On va parler, tiens, peut-être des quotas volontaires pour les femmes dans les directions des entreprises. C'est ce que vient d'établir préconiser le nouveau code AFEP-MEDEF. Et puis on parlera de transition écologique, comment faire pour les entreprises. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Merci d'être avec nous, Patrick Martin.
Merci.
Vous êtes très engagé dans tout ce qui est transition écologique. Donc, on va en parler parce qu'on sait que ça se discute beaucoup, mais c'est un coût aussi pour les entreprises. Mmh. Même le projet de loi sur l'économie circulaire, c'est très bien, mais là aussi, ça a un coût, le coût de l'électricité avec les énergies renouvelables. Vous nous direz un peu pour les entreprises quels sont les défis par rapport à ça. Mais il y a d'abord ce nouveau code AFEP-MEDEF. Donc, vous avez publié la nouvelle version hier, en l'occurrence. Mmh. Plusieurs points, j'ai retenu plusieurs points. Évidemment, il y a la question des quotas volontaires. Sur les femmes, j'y reviens. Au comité du gouvernement d'entreprise, c'est un peu qui tranche dans les cas difficiles. Il a été complètement renouvelé.
Il était complètement renouvelé. Alors, il se penche sur le cas des entreprises cotées prioritairement, mais on est très soucieux au MEDEF. On a mis en place un comité gouvernance de diffuser, de propager toutes les bonnes pratiques à toutes les tailles d'entreprise, cotées ou non.
Ouais. Tiens, justement, à propos de bonnes pratiques, quelle est votre position sur cet incroyable feuilleton à la tête d'Engie, avec ce matin une tribune chez nos confrères des Échos pour soutenir, avec des personnalités très fortes, pour soutenir Isabelle Cocher, la directrice générale d'Engie. De l'autre côté, vous avez le conseil d'administration qui joue son jeu, qui veut a priori l'éviction le 26 février de Isabelle Cocher. Enfin, dire, c'est un feuilleton incroyable pour un groupe de cette taille.
Il est exceptionnel que ça soit sur la place publique. Moi, j'ai pas à me prononcer, le MEDEF n'a pas à se prononcer sur des affaires internes. Alors, il se trouve qu'elles sont mises sur la place publique.
Enfin, c'est interne, oui ou non, c'est l'image quand même d'une entreprise.
Oui,
donc, ça concerne le MEDEF. Et le Haut Conseil, notamment, justement.
Oui.
Il est fait pour ça.
Il y a certainement des choses. Il y a des choses qui nous échappent. C'est pas d'usage de mettre ça sur la place publique. C'est sans doute un peu offensant pour les personnes concernées, la personne concernée. Et puis, je suis pas sûr que ce soit très positif pour l'image de cette belle entreprise qui est Engie.
Oui.
Je sais pas dire autre
chose.
Donc,
vous dites, il faut que ça cesse.
Il faut que ça se règle en interne, pas par volonté de dissimulation, parce que c'est quand même une entreprise cotée, une entreprise importante, mais parce que je pense que personne n'a quoi que ce soit à gagner à mettre ça sur la place publique. C'est très étonnant que ça prenne une dimension polémique comme c'est le cas.
Oui, ça c'est sûr. Justement, ça fera le lien peut-être avec un des points importants de ce nouveau texte, c'est les quotas volontaires sur les instances dirigeantes des entreprises pour avoir des objectifs de mixité. Expliquez-nous. Qu'est-ce que vous cherchez ?
On cherche à prendre une initiative, être proactif en regard de dispositions légales qui sont à l'étude et sur lesquelles Madame Schiappa et Monsieur Le Maire se sont exprimés et qui nous paraissent un petit peu théoriques, un peu éloignées des réalités. Si vous voulez, je développe imposer des quotas de femmes dans les instances dirigeantes. On ne parle pas des conseils d'administration, mais des comités exécutifs. Ça ne correspond.
Les COMEX, c'est des CODIR.
Et des CODIR, alors qui d'ailleurs ne sont pas des instances légales, ça n'existe dans aucun texte de loi, hein, les COMEX et les CODIR. Donc déjà faut-il savoir de quelles instances on parle. Après, si on doit toucher toutes les tailles d'entreprise dans tous les secteurs d'activité, on peut aboutir à des situations aberrantes, c'est-à-dire devoir se séparer de personnes qui sont là depuis très longtemps, qui peuvent être d'ailleurs des actionnaires de ces entreprises, si on parle d'entreprises familiales, pour les remplacer au cas par cas, d'ailleurs, par des hommes ou par des femmes, parce qu'il y a des entreprises...
Oui, pardonnez-moi, Patrick Martin, alors évidemment, je plaide un peu ma cause, hein,
on a enfin,
notre cause, hein, et puis en plus, Marlène Schiappa, elle sera là demain à ce même micro, vous voyez, comme ça, elle pourra vous répondre. Mais quand même, on voit bien que sur les quotas pour les conseils d'administration, la loi Copé-Zimmermann, vous teniez à peu près le même discours, finalement, ça s'est passé, ça se passe plutôt bien. Vous êtes d'accord ? Voilà. Donc, ce qui a été possible dans les conseils d'administration, pourquoi ça ne serait pas possible dans les CODIR, comités de direction et les comités exécutifs ?
Non, alors nous, on est convaincus qu'il faut aller vers la mixité. Et d'ailleurs, quand vous regardez les indicateurs qui ont été mis en place à l'initiative de Mme Pénicaud, ça donne de bons résultats. Moi, je peux vous dire que dans mon entreprise, on a un score de 89%, donc très au-delà du seuil légal. Donc, on n'est pas du tout dans une position réactionnaire et encore moins anti-féministe. C'est pas ça mon propos. Non, un conseil d'administration, on peut le renouveler à chaque échéance de mandat. Donc ça peut être 3 ans, ça peut être 6 ans selon les statuts des sociétés. Un comité de direction finalement réunit les collaborateurs les plus méritants qui pour certains d'entre eux ont des années, des décennies de présence dans l'entreprise. Si au motif qu'une loi entrait en vigueur il fallait se séparer de telle ou telle personne, ça serait injuste d'abord et ça pourrait être néfaste au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc nous on est pour le soft power, on est pour
que en même temps je veux dire nous on a subi des choses pareilles, des injustices, on n'a pas été nommés parce qu'on était des femmes.
Non.
Vous voyez, donc maintenant il y a des injustices vis-à-vis des hommes, j'ai envie de dire. Oui, mais enfin bon, donc c'est, vous voyez.
Non, le mieux est l'ennemi du bien. Nous, à nouveau, on est très déterminés sur ces sujets-là. D'ailleurs, le MEDEF le fait dans ses propres instances, de féminiser.
On s'en porte très bien. Ce qui n'était pas évident.
Ce n'était pas évident. Donc, comment dire, ce n'est pas simplement des déclarations d'intention. On passe à l'acte s'agissant du MEDEF lui-même.
Qu'est-ce qui est un des objectifs qui a été dans le rapport qui avait été remis déjà à Bruno Le Maire sur le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'était en décembre, fin décembre. Il y avait l'objectif de 40% dans un COMEX d'ici 2024, avec, ça c'est pour les COMEX qui ont plus de 8 membres, et puis avec une étape à 2022. Ça c'est gérable, vous qui dirigez une ETI ?
Non, c'est pas gérable.
Non, même ça, c'est pas gérable.
Non, c'est pas gérable. D'accord. Il se trouve que dans mon propre COMEX, il y a une certaine proportion de femmes, on n'est pas à la parité encore. Mais je reprends ce que vous disiez, qui ne sont pas là parce que ce sont des femmes. Elles sont là parce qu'elles ont des qualités, des compétences qu'elles ont démontrées. Et l'entreprise constitue ses instances dirigeantes opérationnelles au fil des ans, en faisant monter en compétences, en responsabilité, jusqu'à accéder à ces instances, des personnes qui ont fait leurs preuves. À nouveau, c'est pas la même chose qu'un conseil d'administration.
Oui, mais en fixant un quota à horizon 2024, enfin, alors c'est peut-être qu'il faut le faire en 2030. C'est une manière aussi de s'obliger à repérer des femmes pour les faire monter.
Non, alors nous, ce que l'on propose, c'est que les conseils d'administration ou de surveillance prennent des engagements datés, chiffrés, que si d'aventure les directions opérationnelles ne respectent pas ces engagements, le conseil d'administration demande des comptes et puis prennent des mesures correctives.
Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler, puis on en parlera demain. Donc, avec Marlène Schiappa, à mon avis, ce ne sera pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a des chances. Est-ce que, juste un mot sur le climat politique, sur la croissance a été...
Décevante.
Décevante, surtout sur le dernier trimestre, à cause de, peut-être, des mouvements sociaux. Vous, est-ce que, en même temps, ça tient, me disait le président de la CPME, vous, président délégué du MEDEF, vous me dites, ça tient quand même.
Mais ça tient
plutôt bien, oui.
Ça tient. Ça tient. Moi, je rappelle toujours que ce phénomène brutal, très excessif, violent dans certaines circonstances, a affecté surtout l'activité en région parisienne, a affecté les salariés eux-mêmes qui ont eu les pires difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail, ce qu'ils ont fait malgré tout. Et puis, on le sait, le commerce, l'hôtellerie, le spectacle, etc., etc. En province, ça a été un non-événement. Et d'ailleurs, les provinciaux, je suis provincial, regardent ça avec un air un petit peu étonné.
Oui, donc en fait, il n'y a pas eu tellement d'impact. Sauf, il y a quand même eu un impact, puisqu'il y a moins 0,1.
Alors, attendons les chiffres définitifs, on sait qu'il peut y avoir des ajustements. Je pense que ces mouvements ont pesé, mais ça n'est certainement pas la seule explication. Il y a quand même une dégradation du commerce international, il y a des tensions géopolitiques qui forcément affectent les décisions d'investissement des entreprises, et puis la consommation elle-même, alors que l'épargne augmente considérablement.
Décision d'investissement des entreprises. Pour l'instant, là aussi, ça tient. Petit bémol, hein, petite inquiétude. Est-ce que le climat politique vous inquiète, Patrick Martin ?
Non, pas plus que ça. Et je pense qu'il y a un indicateur qui est très intéressant et qu'on a tous repéré, hein, qui est l'augmentation significative des investissements étrangers en France. Ben, les entrepreneurs français réagissent comme leurs homologues étrangers. Ils continuent à investir en France. Et puis, tous les secteurs d'activité, certains plus que d'autres, sont confrontés à des phénomènes de mutation profonde. Et donc, quand bien même on ne le voudrait pas, on n'aurait pas d'autre choix que d'investir.
Oui. La réélection, pour vous, c'est un sujet ?
La réélection.
La réélection du président ou l'élection présidentielle, c'est un sujet pour vous ?
Au fil des jours, ça devient un sujet. Mais on ne fait pas de politique à proprement parler. Nous, on veut que ce pays progresse, on veut qu'il soit très intégré dans l'Europe. On est viscéralement pro-européen. Je rentre de La Haye où je rencontrais M. Timmermans, le vice-président de la Commission européenne. On est convaincu que l'Europe est la bonne et la seule réponse à beaucoup de sujets. Donc ça influence quand même notre sensibilité politique.
Le MEDEF, vous êtes très présent, notamment avec Geoffroy Roux-Bézieux aussi, qui a un engagement très fort comme vous, au niveau européen. Est-ce qu'il y a un vrai écho? Parce que là, on voit bien qu'avec le Brexit, il y a un petit doute sur l'avenir de l'Union européenne, malgré tout, même si on reste unis et tout ça, il fallait très bien. Il y a un petit doute en se demandant est-ce que chacun ne va pas tirer, les pays du Nord vont tirer dans leur coin, les pays du Sud. Bon, est-ce que vous arrivez à faire passer votre message? Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu en disant dépêchez-vous?
Oui. Oui, et puis je pense que même sans nous, les instances européennes seraient sur cet axe-là. Je pense que chacun a compris, la Commission européenne singulièrement a compris qu'il y avait une forme d'incompréhension, voire de désaffection des opinions publiques vis-à-vis de la construction européenne. Et donc il y a maintenant une politique, avec notamment le Green Deal, qui nous paraît beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus orientée vers le consommateur, mais également le producteur. Donc il y a un principe de réalité qui, semble-t-il, est en train de s'instaurer.
Oui, d'accord. Alors maintenant, il y a un autre sujet aussi, parce qu'on parle beaucoup de la transformation, transformation écologique. Il y a transformation numérique, vous êtes engagé, transformation écologique. Là, c'est des changements très, très importants pour les entreprises. On en a beaucoup parlé à Davos, donc ici sur BFM Business, on voit bien que ça doit changer tous les modèles d'organisation, de consommation, de production. Est-ce que vous avez chiffré quelque part au MEDEF le coût pour les entreprises françaises d'une transformation écologique responsable?
Alors, ce qu'on a chiffré d'ores et déjà, c'est l'impact financier de la loi économie circulaire et recyclage qui vient d'être votée. Et qu'on estime à 4 à 5 milliards par an pour les entreprises.
Ça enlève... Vous faites comment cette estimation-là?
Si vous voulez, il y a par exemple des dispositifs de récupération qui pour certains existaient déjà et qui fonctionnaient, pour d'autres sont imposés par cette loi, typiquement pour les déchets du bâtiment. C'est un vrai enjeu, mais ça a un coût derrière. Il ne faut pas se raconter d'histoire. À la fin, c'est le consommateur qui paiera. Mais comme le consommateur est demandeur d'inverdissement de l'économie, d'inverdissement d'une manière générale du pays et de la planète, ben il assumera ses responsabilités. Mais ça va être compliqué de mettre tout ça en œuvre dans des délais très courts. C'est ça le vrai enjeu. Je crois qu'on est tous d'accord sur la finalité, on est tous citoyens, on est tous soucieux que nous-mêmes, nos enfants et leurs descendants évoluent dans une planète propre, mais il faut savoir laisser du temps au temps. Il y a des filières entières, des industries entières qui vont devoir se réinventer, ça coûte cher, ça prend un peu de temps, il y a des enjeux sociaux importants, et nous, notre message, c'est celui-là. Aucun débat sur la finalité, mais soyons pragmatiques, accompagnons ce changement sans se fixer des échéances à l'infini.
Est-ce que vous avez l'impression que vos collègues sont prêts à ça? Les entreprises, notamment du BTP, il y a une loi maintenant, vous me direz, mais oui. Est-ce qu'ils sont prêts à faire cette évolution? Ça va tellement transformer l'entreprise, oui. Que... Alors le digital, heureusement, peut aider, mais oui. On voit bien que c'est pas évident, ça change de modèle.
Ça change de modèle. Alors, à nouveau, tout le monde est intellectuellement, je dirais, philosophiquement prêt,
oui,
et même demandeur,
bien. Oui, bien sûr.
Mais tout le monde n'est pas opérationnellement prêt. Et puis, il y a quand même une grosse question qu'il faut se poser, qui est de savoir si nos concurrents à travers la planète s'appliqueront à eux-mêmes ou se verront appliquer les mêmes contraintes. À défaut, comment se protège-t-on d'importations de produits qui ne seront pas normés ou qui seront produits dans des conditions économiques qui les rendront ultra compétitifs? Donc ne nous tirons pas une balle dans le pied.
Là, c'est la grande question de savoir qu'ils sont mis aux frontières de l'Europe. Ouais. Est-ce que la position sur la taxe carbone du MEDEF, c'est quoi aujourd'hui?
On est très favorable, on est même promoteur de la taxe carbone. Mmh. On voit les esprits...
Au niveau européen?
Alors forcément au niveau européen, oui, sinon voilà. Ça n'a pas de sens. Mmh. Alors on voit les mentalités évoluer chez nos homologues patronaux des autres pays européens. Typiquement les Allemands ont beaucoup évolué de ce point de vue. Ça va être long, ça va être techniquement très complexe. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire des tests sur les produits finalement les plus traçables. Les aciers, le ciment, l'aluminium. Parce que sur des produits composés, ça va être inextricable. Il faudra le faire à un moment donné, mais de tracer l'origine de ces produits pour savoir quel est leur bilan carbone.
La taxe carbone, les Allemands étaient très opposés à une taxe carbone. Vous dites qu'il y a une évolution.
Il y a une évolution.
Mais est-ce qu'il y a une évolution au niveau de la Commission européenne aussi, de Business Europe, que vous connaissez bien, parce que c'est Pierre Gattaz qui préside. Est-ce que ça bouge ou on est encore un peu dans les frimas
Oui, ça bouge. C'est une longue maturation. Ça bouge parce que chacun convient maintenant que ça permet d'atteindre à la fois des objectifs essentiels de décarbonation et de restauration l'instauration de, comment dire, d'une libre concurrence raisonnée et équitable.
Quand vous regardez le prix du carbone, hein, en disant qu'il faut fixer un prix du CO2, ça fait combien de temps qu'on en parle? Ça fait très 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 longtemps. Un jour, ça bouge quand même un peu. On voit des grands groupes qui en interne se fixent justement des prix CO2. Oui. Je ne sais pas si vous le faites dans votre entreprise.
Non, pas encore. Non, je le ferai.
Oui.
Je le ferai. Non, nous on croit à l'équilibre du marché, hein, c'est-à-dire que fixer arbitrairement un prix de la tonne, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et a fortiori, si c'est une taxe carbone aux frontières, il y aura un mécanisme d'ajustement par le marché qui devrait être efficace.
Oui, donc ça c'est le point important. Alors tiens, il y a une autre piste qu'on a évoquée, c'est les impôts de production. Les impôts de production, je sais que c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps. Bruno Le Maire, c'était Agnès Pannier-Runacher ici même, s'est engagé en disant oui, il faut les baisser. Mais il y a un petit souci, c'est un petit souci budgétaire. Lorsqu'on voit que nos déficits publics qui filent, on se dit qu'on ne peut pas tout faire. Donc on pensait que c'était un peu enterré. Et puis là-dessus, ça revient un peu sur le devant de la scène en disant, vous voulez une baisse d'impôts de production de certains, mais en échange, eh ben, vous vous engagez justement à cette transition écologique, à l'accélérer dans vos entreprises. Est-ce que c'est un fair deal, ça? Un green deal qui vous convient, Patrick Martin?
Oui, alors à la fin, c'est un peu comme les swaps de cotisation pour financer les retraites. Il ne faut pas que ce soit un jeu à somme nulle, hein, parce qu'à nouveau, les entreprises ont à financer, y compris sur le plan social, des mutations profondes. Mais on sent venir cette chose-là, qui n'est pas inintelligente, hein, c'est-à-dire obliger les entreprises à travers des normes, le cas échéant, à travers des taxes, à verdir plus rapidement qu'elles ne le feraient spontanément leur processus de fabrication, leur offre de produits, en contrepartie de quoi il pourrait y avoir des baisses des impôts de production. Mais à la fin des fins, ça ne baissera pas les prélèvements obligatoires sur les entreprises françaises, qui, je le rappelle, sont les plus élevés du monde.
Oui, et donc
C'est une réponse probablement sur le plan de l'accélération du verdissement de notre économie. Ça n'est pas une réponse sur le sujet tout aussi essentiel de la baisse des coûts de production.
Oui, donc
en
pour
France,
vous dites non, c'est pas du tout un donnant-donnant. Vous acceptez pas
C'est un donnant-donnant, mais qui à nouveau répond à une question et pas à la deuxième. Ouais. Le président de la République lui-même a convenu que ces impôts de production étaient contre-productifs sur le plan industriel, économique, mais également social. Donc si le président de la République l'a dit, il faut que ce soit suivi des faits.
Oui, mais enfin, ça, il y a peut-être après un autre mandat, on n'en sait rien. C3S, vous espérez quelque chose en 2020 ou en 2021? Vous continuez à espérer?
On attend quelque chose et quelque chose de significatif. Alors la C3S, c'est 3,8 milliards. Hein. Je rappelle que les impôts de production, c'est 72 milliards.
Donc pour vous, ce n'est pas ce que vous appelez significatif.
Et par comparaison, nos concurrents allemands, toute proportion gardée, payent 10 milliards. Mais ça sera un premier pas, ça sera un signal. Et puis en définitive, les prélèvements sur les entreprises en 2019, en 2020, n'ont pas baissé, toutes catégories confondues. Hein. Donc ça sera bien...
Quand même.
Non.
En 2018, j'ai plus les chiffres en tête.
Non. Non, typiquement la transformation du CICE en baisse de charges, qui est une bonne chose, ça se traduit par 4 milliards d'impôts supplémentaires pour les entreprises, parce que c'est fiscalisé. Le taux du CICE avait été ramené de 7 à 6%. On ne se plaint pas, mais on veut quand même contrer cet argument selon lequel les entreprises ayant été gâtées, dorénavant, il ne faut plus rien faire pour elles.
Il y a quand même eu le CICE, qui a quand même...
Dont j'aime parler, mais
qui
dont on voit les résultats absolument remarquables en termes de création d'emplois. Ouais. C'est ce qui nous rend assez vigilants s'agissant de toute nouvelle hausse du coût du travail.
Ça, c'est la conférence Vertel, de financement. Ouais. Ça se passe comment, là, les premiers jours?
Bon, pour l'instant, on parle de méthode.
On papote pour l'instant?
On papote, oui, on peut dire ça comme ça. Non, on est extrêmement
attentif. Mais le dur du sujet, c'est pour quand?
Non, mais pour l'instant, c'est le pas de notre part, hein, d'ailleurs. Nous, on est très constants sur nos positions, qui sont argumentées. C'est un peu le concours l'épine de la créativité sociale. Hein. Donc, au fil des jours, si on retient les propositions qui sont exprimées, l'ardoise s'alourdit. Du fait que l'ardoise s'alourdit, l'équation financière devient de plus en plus compliquée. Pour l'instant, on ne parle que de méthodologie et de calendrier. Cela dit, il faut que pour fin avril, les partenaires sociaux fassent des propositions. Nous, on est très favorable à ce qu'il y ait des propositions, parce qu'on ne peut pas d'un côté dire les partenaires sociaux sont responsables et de l'autre côté ne pas assumer ses responsabilités.
En même temps, le Premier ministre, il a dit, alors lui qui était vraiment pour l'âge pivot, à 64 ans, il a retiré, vous demandez une mesure d'âge, il a dit, moi, du moment qu'on me trouve une solution sur le financement, la mesure d'âge, elle n'est pas nécessaire. Pour vous, au MEDEF, elle est indispensable?
Il faut avoir en tête les enjeux. On parle de 12 milliards, c'est 10, c'est 14, etc. Je ne sais pas si vous avez relevé ce chiffre. Si on ne fait rien et que par hypothèse, comme le disent certains, en 2050, le régime s'équilibre, on aura accumulé 240 milliards d'euros de dettes entre-temps. Alors, écoutez, je suis désolé, je pense
oui,
que...
Oui, mais en même temps, on sait bien que les retraites, c'est 14% du PIB, la retraite, cette réforme ne va rien changer. Donc, bon, on peut dire que la France peut consacrer 14% aux retraites de ses citoyens.
En maintenant le coût des retraites à 14%, c'est-à-dire sensiblement plus que dans la plupart des autres pays, on aura malgré tout creusé un déficit de 240 milliards d'euros dans les 30 ans qui viennent. Alors, on peut dire 30 ans, on s'en fiche. Non, moi je ne m'en fiche pas. Le pays ne peut pas se... Au niveau d'endettement auquel il est, d'endettement public, il ne peut pas supporter 240 milliards d'euros de dette de plus.
Donc pas d'augmentation de cotisation ?
Non.
Hein, ligne rouge pour le MEDEF, mais vous allez tenir cette ligne rouge là ?
Bien sûr.
Est-ce que sur vous demandez peut-être le doublement des plafonnements de PERCO, des plans d'épargne à retraite pour permettre aux cadres avec un haut revenu de plus de 120 000 euros par an d'être relevés, comme le demande la CEPME ou d'autres syndicats ?
Oui, alors ça renvoie à ce mot tabou épouvantable de capitalisation.
Oui.
Nous, on est assez décontractés là-dessus. D'ailleurs, on s'amuse d'une certaine manière de voir que le seul régime de capitalisation qui existe actuellement bénéficie à des fonctionnaires et est géré par les mêmes syndicats qui, par ailleurs, poussent des cris d'orfraie quand on parle de capitalisation. Oui, si effectivement les cotisations sont limitées à 3 passes, à 120 000 euros annuels de rémunération, hormis les 2,80% de cotisation de solidarité que continueraient à acquitter les cadres au-delà de ce plafond de salaire, il faudra bien trouver des dispositifs de substitution. Si ça doit être de la capitalisation, ça sera de la capitalisation. À vrai dire, il y a 1700 milliards d'épargne en assurance-vie en France. Donc il y a de fait déjà, y compris pour des gens qui ont des revenus assez modestes, une forme d'épargne de capitalisation.
Sans le dire, comme
sans le dire.
Un dernier mot sur l'apprentissage. Donc très bon chiffre, croissance à deux chiffres. Après il y a Muriel Pénicaud qui dit vive ma réforme, elle est formidable. Après vous avez les régions qui disent nous on gérait jusqu'au 31 décembre 2019, donc c'est vive les régions. On sait que les régions leur a retiré des prérogatives. Au-delà de cette polémique, c'est quand même un bon signe.
Et formidable.
On voit des grandes entreprises qui créent leur propre centre.
Parce que la loi l'autorise, dorénavant.
Total,
cette loi n'est pas parfaite. Moi, j'ai tendance à rejoindre les exécutifs régionaux quand ils disent qu'il y a des risques sur certains territoires et pour certaines professions. C'est vrai. Qui ne sont pas dotés, qui ne pourront pas se doter des outils que les régions finançaient jusque-là. Mais ce n'est pas l'essentiel du débat. Il faut vraiment se réjouir de cette augmentation très forte de l'apprentissage. Ça répond en bonne partie au problème de difficulté de recrutement qu'ont les entreprises. Je voudrais simplement signaler que l'apprentissage n'existe pour ainsi dire pas dans le public, et pour le peu qui existe, il a baissé sur la même période.
Et donc, vous en déduisez quoi ?
J'en déduis que les entreprises, comme en matière de création d'emplois, comme en matière de revalorisation des rémunérations, les entreprises font le job, elles le font sans se gargariser, elles le font parce qu'elles en ont besoin, mais il faut quand même le signaler.
Vous pensez... le président de la CPME ce matin disait de toute manière, pour voir l'effet d'une réforme, il faut attendre fin 2021. Vous êtes d'accord avec lui, il faut un peu de temps.
Il y a des dispositions techniques essentiellement bienvenues qui ont été prises. Il y a surtout un changement d'état d'esprit et c'est formidable. On a trop tardé, les entreprises ont trop tardé pour la plupart d'entre elles à s'intéresser à l'apprentissage. On voit quel est le taux de placement des apprentis au terme de leurs études. C'est vraiment la bonne solution.
Et les mentalités évoluent, je pense que c'est un point important. Toute dernière question, on a assisté à quelque chose qui nous a un petit peu sidéré vu de l'extérieur, qui est cette polémique autour de ce vote qui avait été demandé sur le congé parental en cas de perte d'un enfant, avec le MEDEF qui a tout de suite réagi du reste en disant, par le biais de Jean-François Rebézur, en disant il faut un nouveau vote. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé, comment vous analysez ça? Vous étiez demandeur, vous, au départ, alors, les entreprises ou pas?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on ne nous a pas demandé notre avis. Bon, donc on a été un peu pris de court, on aurait pu suivre ça, on ne l'a pas fait, ce débat parlementaire. Geoffroy a réagi effectivement séance tenante, et il y a consensus chez nous. Alors, autant d'un côté, on est viscéralement allergique aux augmentations de charges, autant sur des causes évidentes comme celle-là, dramatiques pour les intéressés, puis pour tout l'environnement, évidemment, il faut prendre des mesures. Alors, est-ce que c'est par la loi, est-ce que c'est à l'initiative des branches ou des entreprises, c'est à voir, mais il faut prendre des mesures pour accompagner ces gens qui vivent un drame.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve demain. On reparlera des femmes, je vous le disais, avec Marlène Schiappa qui sera mon invitée dans l'Orage. Demain matin, c'est Cédric O, le secrétaire d'État en charge du numérique, qui viendra nous parler de la French Tech. À demain.